Voulons nous rappeler ce matin encore que toi, le seul vrai Dieu, tu es un Dieu qui parle. Tu as parlé par divers moyens dans le passé et tu nous as donné cette parole qui nous a été transmise à travers les générations. Et nous pensons aussi à toute la fidélité que cela a impliqué pour tes enfants de transmettre ce livre, pour le garder, pour le traduire aussi dans nos langues pour que nous puissions la comprendre. Merci ce matin de pouvoir nous ouvrir à cette parole, la recevoir pour qu'elle nous touche, pour qu'elle nous change. Et Seigneur, nous te demandons que ton esprit œuvre par la parole pour notre bien ce matin encore. Et nous le demandons au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Voilà, donc, je vais lire dans Exode 25. Alors, c'est un texte qui parle du tabernacle. Hein, donc, juste le début des instructions que Dieu donne à Moïse. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. « Invite les Israélites à me faire des offrandes prélevées sur leurs biens. Vous accepterez de tout homme qui la donnera de bon cœur » l'offrande qu'il me fera. Voici ce que vous accepterez en guise d'offrande, de l'or, de l'argent et du bronze, des fils de pourpre violette et écarlate, de rouge éclatant, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin et du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier et des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum aromatique, des pierres d'onyx et d'autres pierres précieuses à enchâsser pour l'éphod et pour le pectoral. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Je te montrerai le modèle du tabernacle et de tous ses ustensiles qu'il contiendra, afin que vous exécutiez tout exactement selon ce modèle. Puis il commence donc à donner des précisions. Je lirai juste le début de ces précisions, parce que ça couvre plusieurs chapitres. On fabriquera un coffre en bois d'acacia. Il aura 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Tu le plaqueras d'or pur, à l'intérieur et à l'extérieur, et tu le garniras d'une bordure d'or tout autour. Et puis je lirai aussi le verset 40, le dernier verset de ce chapitre 25, où le Seigneur reprend cette instruction « Aie soin d'exécuter tout ce travail exactement selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Alors nous ne sommes plus à l'époque du tabernacle d'Israël, et pourtant ça fait partie de la parole que Dieu nous a donnée. Et nous avons reçu comme charge, ce que Pierre écrit dans 1 Pierre 2,5, « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » C'est quelque chose là qui nous concerne directement. Et donc, je pense qu'il y a aussi un rapport, parce que je dirais que pour nous, avec ce projet que Dieu nous a donné, cette vocation, parce que c'est quelque chose de fort, c'est pas si ça vous chante, édifiez-vous, c'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il nous commande. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, et je pense, et je vais essayer de démontrer un petit peu ce matin, que pour nous, donc, la construction du tabernacle est aussi une véritable mine d'or pour comprendre ce que Dieu veut pour nous. Voici une construction dont le Seigneur lui-même est l'architecte. Et l'Épître aux Hébreux nous dit aussi que ce tabernacle était une image et une ombre des réalités célestes. Donc il y a ici une projection de quelque chose qui est dans le monde invisible, mais qui devient visible à travers le tabernacle et qui était une ombre. Donc voilà, nous entrons dans une réalité en Jésus-Christ qui va plus loin que l'ombre, mais l'ombre peut encore nous parler. Quand nous voulons penser, quand nous voulons concevoir quelque chose pour le réaliser, nous avons besoin de modèles. Et nous cherchons des modèles. Hein. Que ce soit pour la cuisine, on cherche une recette sur Internet. Que ce soit pour réparer sa voiture, on cherche un manuel qui nous donnera le modèle de comment il faut procéder. Et pour qu'Israël ne puise pas ces modèles, alors là on est plutôt dans le domaine spirituel, mais que pour qu'Israël ne puise pas ces modèles en Égypte, qu'il venait de quitter, hein, tout juste, Dieu lui a communiqué pour qu'il ne n'aille pas vers ce genre de modèle-là, il lui a communiqué un modèle nouveau et un modèle tout à fait original. Et l'incident qui se déroule en parallèle avec la communication des plans du tabernacle à Moïse est là pour prouver l'utilité, je dirais même pour prouver la nécessité absolue du bon modèle, d'avoir le bon modèle. Parce que pendant que Moïse est sur la montagne et qu'il reçoit hein, toutes ces plans du tabernacle, ces instructions de Dieu, eh bien, Israël, le peuple, se fabrique une idole et lui rend un culte. Hein. Et c'est l'incident du veau d'or hein, que vous avez sans doute déjà lu. Mais dans notre humanité, nous ne sommes pas fondamentalement différents des enfants d'Israël à l'époque de Moïse. Pas se faire d'illusions. Nous aussi, nous avons besoin de bons modèles. Et notre monde, comme pour Israël, c'était l'Égypte qui lui imposait des modèles, notre monde aussi nous propose ces modèles. Et je dirais même, essaye de nous imposer ces modèles. Alors, pas par la force dans nos pays, heureusement pour l'instant, mais insidieusement, le monde essaye de nous faire entrer dans sa vision des choses, son modèle pour la vie. Et par la propagande du monde, hein, tout ce que les médias nous envoient jour après jour, tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons autour de nous, par imprégnation, le monde essaye d'installer ses modèles dans nos cœurs. Ici, il ne peut pas le faire par des moyens détournés, il utilisera aussi le mépris, l'hostilité à l'égard de tous ceux qui ne sont pas à ses yeux religieusement corrects. Et aujourd'hui, il n'est pas religieusement correct de dire dans ce monde que Jésus est le seul sauveur, qu'il est le seul chemin, hein, qu'il y a un seul Dieu, qu'il y a une vérité que Dieu nous donne. Mais le Seigneur, lui, nous a donné ses modèles. Et pour bâtir à la manière de Dieu, il faut revenir à ces modèles bibliques. Alors pour l'Église, on a toute une liste de modèles que le Seigneur nous a donnés. Il y a évidemment le corps de Christ qu'on a mentionné déjà ce matin. Il y a l'édifice de Dieu, le champ de Dieu, l'épouse de Christ. Hein, je ne vous ferai pas toute la liste encore, mais vous les connaissez. Et je dirais aussi le tabernacle, qui est le premier modèle de la maison spirituelle. Et donc ce matin, je vais vous suggérer quelques pistes pour voir comment le tabernacle peut éclairer la vie de l'Église. Bâtir ensemble, donc, voilà notre projet, le projet de Dieu pour nous. Mais que devons-nous bâtir? Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Commençons donc par cette idée toute simple qui est de bâtir une maison. Ce mot que nous traduisons « tabernacle », en fait, veut dire tout simplement « une demeure hein, ». C'est le mot qui désignait la demeure de chacun, d'ailleurs. Hein. Chacun avait son petit tabernacle, dans le sens où il avait un endroit pour habiter. Et donc, tout Israël vivait sous des tentes, donc le tabernacle allait aussi être sous une tente, évidemment, hein, à l'époque. Mais c'était bien une habitation. C'était le signe que l'Éternel voulait habiter, demeurer avec son peuple. Et je vous rappelle ce que nous avons lu. Le peuple me fabriquera un sanctuaire pour que j'habite au milieu de lui. Voilà le projet de Dieu. Et je pense qu'il est bien de temps en temps de nous rappeler que nous sommes appelés à bâtir une maison et non pas un monument. Et on reviendra sur la différence entre une maison et un monument. Mais voilà, c'est une maison que le Seigneur désire. Parce que l'Église, comme le tabernacle, n'a de sens et n'a de valeur que si elle est habitée. Et c'est le Seigneur qui doit habiter cette maison que nous devons former. Le plus important, c'est la présence de Dieu et c'est le règne de Dieu. Que le Seigneur soit à sa place sur le trône dans son Église. Et cela est clairement indiqué dans ce que nous avons lu. Alors ça vous saute peut-être pas aux yeux, donc je vais essayer de m'expliquer. Dans la description que le Seigneur fait du tabernacle, l'importance de son règne est là en première place. Alors, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur le tabernacle, et vous en avez peut-être lu. Moi, j'en ai lu quelques-uns et j'ai toujours été surpris de voir que les auteurs qui abordent le tabernacle, ils commencent toujours par le décrire de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire, ils commencent par la porte, par la clôture, par l'autel, par la cuve, par le premier rideau. Et c'est curieux. Si vous avez suivi ce que je vous ai lu ce matin, le Seigneur, il fait la démarche inverse. Le Seigneur, il commence pas par la porte, il commence par le coffre. Il commence par, non pas par la clôture, non pas par la structure, mais par ce qui était le plus caché, en fait. Ce qui était le plus mystérieux. Ce coffre, cette arche de l'Alliance qui était là dans le lieu très saint. Et ce coffre, donc, comme je dis, est de tout le mobilier du tabernacle, ce qu'on voyait le moins. Le souverain sacrificateur seul entrevoyait dans l'obscurité relative du lieu très saint, et une fois par an, cet objet, cette arche de l'Alliance, ce coffre surmonté par les chérubins. Alors, certaines de nos traductions plus récentes ont gardé le mot hébreu, ils parlent plutôt de kéroubim, parce que ces chérubins ne sont pas des angelots joufflus, comme les chérubins que notre monde a gardé en tête, mais ce sont les gardiens de la sainteté de Dieu, donc des êtres plutôt redoutable. Donc, il faut se la rappeler. Mais ce coffre, donc, avec son couvercle, le propitiatoire, représente le socle du trône de Dieu. Et c'est là qu'on arrive, donc, à la question du règne. Et ce coffre était conçu comme le point de contact entre le ciel et la terre. Au verset 22 de ce chapitre, vous pouvez le lire vous-même, je vous le lis. Le Seigneur dit, « Je te rencontrerai du haut du propitiatoire et je te parlerai. » C'est là que Dieu parle. Et pour bien bâtir notre maison spirituelle, pour qu'elle soit une demeure habitée et non un monument vide, pour que la parole de Dieu soit clairement entendue parmi nous, nous devons mettre le trône au centre. Et c'est là qu'on entendra la parole de Dieu, si le trône est au centre. Jésus n'a pas dit autre chose, d'ailleurs, quand il a proclamé « Cherchez d'abord le règne de Dieu, hein, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Alors, bien sûr, c'est vrai qu'il est toujours possible et même tentant dans l'Église d'investir beaucoup de temps, d'énergie et de moyens dans l'apparence, dans les activités. Et il y a quelque chose de normal dans le fait de mettre en place ce qu'il faut pour la vie de l'Église. Mais si le trône de Dieu n'est pas au centre, tout le reste ne servira à rien. À rien. Le trône au centre et Jésus sur le trône, bien sûr. Dans le tabernacle, ce coffre, je l'ai dit, était caché et pourtant tout le monde savait où il était. Pourquoi ? Ben parce que tout le reste permettait de localiser cet objet caché. Tous les autres objets et la structure balisaient le chemin du trône, hein, depuis la porte, en passant par l'autel et la cuve, et les deux voiles, etc. Donc chacun savait que là était cet endroit où le Seigneur se manifestait et parlait. Tout s'organisait autour du trône. Et dans l'Église, s'il est vrai que nous nous dispersons facilement, malheureusement, nous pouvons aussi perdre de vue l'essentiel. Nous sommes donc appelés à rendre visible le règne de Dieu. Et ça, c'est un défi. Ensemble, Dieu nous demande de rendre visible son règne aujourd'hui. Alors bien sûr, pour que le Seigneur règne dans son Église, il faut d'abord qu'il règne dans mon cœur, dans chacun de nos cœurs. Il faut que le Seigneur règne sur nos pensées, sur nos raisonnements. Il faut que le Seigneur règne sur nos choix, sur les options de tous les jours. Il veut qu'on lui apporte aussi toutes nos questions, hein, nos choix. Le Seigneur doit régner chez moi et puis chez chacun. C'est à cette condition que l'Église aura un témoignage. Hein. Il y a une cohérence quand nos témoignages et notre soumission personnelle rencontrent celle des autres et que le Seigneur est glorifié par ce moyen. Donc il est bien de nous arrêter devant le trône pour faire le point. Le règne de Dieu est-il solidement établi dans ma vie aujourd'hui? Le trône est-il le point fixe autour duquel tout le reste s'organise? Ce trône, accessible au seul souverain sacrificateur une fois par an, nous renvoie aujourd'hui au trône de la grâce. Et nous sommes appelés à nous approcher. D'ailleurs, je l'ai déjà entendu ça ce matin, quelqu'un a parlé de cette invitation. Nous sommes invités à nous approcher, non pas pour être accusés, non pas pour être condamnés, comme vous allez le voir dans la suite de Romains 8, hein, mais pour être éclairés, pour contempler l'amour de Dieu pour nous. Mais dans son amour, le Seigneur peut avoir envie de nous dire peut-être ce matin, « Mon enfant, là où je ne règne pas, ma bénédiction ne peut pas s'épanouir. Là où je ne règne pas, ma bénédiction ne peut pas s'épanouir. » Et là, nous sommes devant une responsabilité, nous sommes devant un appel de Dieu, hein, si nous voulons voir sa bénédiction. Et je suis persuadé qu'il y a là l'explication de beaucoup de nos frustrations dans notre marche chrétienne. Il y a là l'explication de ces prières qui ne trouvent pas d'exaucement. Parce que nous sommes forts, et là je parle d'abord pour moi, je suis fort pour demander à Dieu de me bénir dans des domaines où je ne le laisse pas régner. Et malheureusement, je pense que je ne suis pas le seul. Hein, nous sommes forts pour demander à Dieu, Seigneur, bénis mon projet, bénis mes désirs. Mais est-ce que j'ai commencé par plier le genou et dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quelle place a sa volonté dans mes choix et dans mes projets? Je crois qu'il nous faut aussi prendre le temps de rétablir le trône à sa place, sa juste place. Et là, le Seigneur nous parlera, hein, et nous rencontrera. Bâtir ensemble une maison pour héberger, alors je l'ai mis entre guillemets, vous comprenez ce que je veux dire, on ne peut pas enfermer Dieu. D'ailleurs, Salomon a dit, quand il a construit le temple, le Seigneur, les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai construite. Mais comprenez, Dieu veut demeurer au milieu de nous. Donc, bâtir une maison pour héberger et révéler le règne de Dieu, c'est notre appel, c'est notre vocation. Et cette maison doit se construire autour du trône, hein, du trône de Dieu, où Jésus est assis aujourd'hui. Mais il est quand même question de bâtir une maison spirituelle. Alors là, il faut faire la différence avec le tabernacle, parce que pour la construction du tabernacle, vous l'avez entendu, les Israélites ont contribué beaucoup de choses, hein, de l'or, de l'argent, du bronze, des étoffes, des peaux, du bois. Il y avait des tas de différents matériaux qui s'accumulaient. Parce que la demeure à construire était bien tangible, hein, c'était quelque chose qu'on pouvait toucher, voir et comprendre. Mais depuis la mort et la résurrection du Fils de Dieu, depuis que le voile s'est déchiré, eh bien, les choses ont changé. Et ceux qui l'adorent, l'adoreront en esprit et en vérité. Toutes les contraintes de lieu, de mobilier, disparu. Nous n'avons pas d'autel ici ce matin, nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas tous ces objets qui rappelaient la grâce de Dieu aux Israélites en attendant la venue de celui qui allait donner sa vie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc nous n'avons pas les mêmes contraintes dans le sens du mobilier ou du lieu. Mais nous formons quand même une maison. Mais c'est une maison spirituelle. Et je vous rappelle ce que Paul écrit aux Éphésiens. Ces deux versets sont très importants. En Jésus-Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Et c'est là qu'on voit qu'il y a un parallèle avec le tabernacle. Alors j'aimerais faire deux remarques par rapport à cette maison spirituelle. D'abord, j'aimerais rappeler qu'il ne faut pas confondre spirituel et invisible. C'est pas la même chose. Et ici encore, le tabernacle m'aide à penser l'Église. Car, à y regarder de près, ce sanctuaire était une drôle de construction. À l'intérieur, on trouvait une structure originale, hein, beaucoup d'or, de jolies broderies. Et à l'extérieur, on avait une tente, une grande tente, certes, mais une tente en poil de chèvre, dont la conception ressemble à celle de toutes les tentes d'Israël. Les tentes des familles étaient plus petites, mais on est sur une même base de construction. Mais l'aspect extérieur est à la fois banal et fonctionnel. Le toit en poil de chèvre protège le tabernacle proprement dit, le protège des intempéries déjà, et des regards. La gloire est à l'intérieur, et seuls ceux qui sont appelés à entrer peuvent la contempler. Et à l'époque, tout au début, il n'y avait que Moïse qui avait contemplé cette gloire, et puis Aaron quand il a été institué souverain sacrificateur. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire les contes de Narnia écrits par C.S. Lewis, mais dans un de ces contes, il y a une expression qui m'a frappé depuis la première fois où je l'ai lu et ça me revient dans la tête quand je pense au tabernacle. Il parle, en fait, Louis, dans ce conte, d'une étable comme celle de Bethléem. Il compare cette étable à l'étable de Bethléem où le Fils de Dieu est né et a été posé dans la mangeoire. Et il dit, cette étable était plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors ça, c'est un défi pour notre logique, bien sûr. Mais moi, ça me parle tellement. C'est effectivement, le tabernacle, dans un sens, était beaucoup plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et j'aimerais nous encourager à regarder l'Église de la même façon. Parce qu'une Église locale de l'extérieur, pour ceux qui passent là, qu'est-ce qu'ils voient? À la limite, s'ils comprennent que vous êtes une association qui se réunit, bon, une association loi 1905 bien sûr, mais une association quand même. Il y a combien d'associations à Figeac? Pas mal. Dans toutes les villes, il y a des dizaines et souvent des centaines d'associations. Donc, pour le monde, ok, c'est fonctionnel, c'est notre tente, c'est ce que le monde voit. Ça permet aussi de simplifier nos relations avec les autorités. C'est fonctionnel, mais c'est également banal à cause du nombre d'associations qu'il y a dans la ville. Mais nous ne devons pas oublier que cette église que nous formons doit être plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Que le monde ne voit pas plus loin que la tente, c'est normal. On pourrait dire ça le rassure quelque part, de dire « Ah oui, mais c'est une association religieuse, entre guillemets. » Mais nous ne devons pas donner une importance démesurée à l'aspect extérieur. C'est vrai que la tente couvrait le tabernacle, mais c'est vrai aussi que la tente ne pouvait pas vraiment contenir cette gloire qui était à l'intérieur. Donc il y a l'aspect extérieur et l'association, et puis il y a le local. Alors, nous sommes réunis dans un local ce matin, mais nous pourrions très bien être réunis à la salle des fêtes ou dans un hangar quelconque, la maison de Dieu serait quand même là. Parce que vous y êtes, tout simplement. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu rassemblés, nous formons la maison de Dieu. Et donc c'est important aussi de garder le local à sa bonne place dans nos têtes et dans nos pensées. Alors, en bon chrétien évangélique, évidemment, nous ne confondons pas le local et la maison de Dieu. C'est bien, mais toute communauté chrétienne ayant besoin de se réunir quelque part, il faut un local ou il faut un endroit. Mais la parole de Dieu n'attache pas une grande importance au lieu où nous nous retrouvons. Et vous le savez comme moi, que les premiers chrétiens se sont rencontrés en différents lieux, dans les actes, on les voit se retrouver dans les maisons, mais aussi dans la cour du temple, quand ils étaient nombreux, ils trouvaient des endroits. Et on trouvera toujours des endroits nécessaires pour nous rencontrer. Bon, il faut que chaque église choisisse comment et où elle va tenir ses rencontres, et si les locaux que nous avons sont accueillants, c'est un plus, mais ne perdons pas de vue que le local appartient aussi au fonctionnel et pas à l'essentiel. Il est bien plus important de faire avancer le règne de Dieu que d'avoir le plus beau local qui soit, la meilleure organisation possible. C'est une question, évidemment, de priorité et d'équilibre. Le tabernacle avait besoin de la tente, mais le local ne doit pas nous fasciner comme la gloire de Dieu doit le faire. Et là encore, je pense que nous pouvons tirer profit de l'histoire d'Israël. On a parlé du tabernacle ce matin. Après le tabernacle, il y a eu le temple construit par Salomon. Et puis ce temple a été démoli à l'exil. Et puis quand Esdras est revenu avec une partie du peuple, ils ont reconstruit un temple. Et puis quand Jésus est venu sur la terre, il y avait ce qu'on appelait, on a appelé le temple d'Hérode, puisque c'est lui qui a financé la construction. Le tabernacle, on a vu, n'avait rien pour frapper les yeux. C'était quelque chose de très simple. Le temple de Salomon a donné un peu plus d'importance à l'aspect extérieur. Hein. C'était un peu plus fignolé, on va dire, hein, un peu plus beau de l'architecture. Et le temple qu'on appelle celui d'Hérode était magnifique. Toute beauté architecturale, toute ostentation aussi, c'était quelque chose d'énorme. Seulement dans le tabernacle, dans le lieu très saint, était abrité le trône de Dieu. Tandis que dans le lieu très saint du temple d'Hérode, il y avait quoi? Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il y avait dans le lieu très saint du temple d'Hérode? C'est une question piège, parce que à ce moment-là, dans le lieu très saint, il n'y avait rien, parce que l'arche n'est pas revenue de l'exil. Donc, le lieu très saint était vide, et quand le voile s'est déchiré, c'est ce qui a été révélé. Il y avait un vide. Et là, on revient un peu au fait que ce temple-là était plutôt un monument vide qu'une habitation habitée par la gloire de Dieu. Alors, ne laissons jamais le fonctionnel prendre le pas sur la vie. C'est la vie que Dieu veut voir. C'est la vie qui lui tient à cœur. Notre maison spirituelle ne peut pas rester invisible, mais elle ne peut pas non plus se réduire à ce qu'on voit de l'extérieur. Et puis, ma deuxième remarque, c'est que la maison se construit avec notre générosité. La maison se construit avec notre générosité. Alors, j'ai déjà rappelé ce que les enfants d'Israël ont donné. Il y avait beaucoup de choses. Hein, et d'ailleurs, si je me souviens bien, à un moment donné, ils ont dû dire « Stop, il y en a trop, hein, arrêtez de donner ». Ça, c'est intéressant aussi pour nous. Mais c'était une offrande volontaire, fruit de cœur généreux. C'est ça qu'il faut retenir pour nous. C'était une offrande volontaire, fruit de cœur généreux. Il reste vrai que le fonctionnement et l'édification de l'Église font appel à nos dons volontaires, hein, nos offrandes, et que le Seigneur aime toujours celui qui donne avec joie. Mais pour bâtir ensemble une maison spirituelle où Dieu se plaît à habiter, il ne suffit pas que nous soyons généreux de nos biens, de notre argent. Ce n'est pas d'abord une question matérielle. Et il n'est malheureusement pas rare de rencontrer des chrétiens qui semblent croire qu'il suffit de donner de ses biens pour que l'œuvre de Dieu avance et que son règne devienne visible. Et ce n'est évidemment pas vrai. Comme il n'est pas vrai que le tabernacle s'est monté tout seul comme par magie à partir des tas de matériaux qu'on avait déposés aux pieds de Moïse. Il y a quelque chose qui s'est passé entre le moment où ils avaient les matériaux et le moment où le tabernacle était fonctionnel. C'est quoi? Eh bien, c'est que il a fallu que chacun exerce le don que Dieu lui avait donné. Il a fallu que chacun se mette au travail. Vous trouverez des détails dans le chapitre 31, si ça vous intéresse, dans l'Exode. Mais je vous lis juste un verset. Le Seigneur a dit, j'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai été ordonné. Hein? Nous sommes impliqués tous dans la construction de cette maison spirituelle parce qu'il ne suffit jamais de donner. Il faut d'abord et surtout se donner. Et le Seigneur nous a doués pour être donc des ouvriers dans cette construction. Ils se sont, je pensais à ce verset de 2 Corinthiens, ils se sont tout d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Et ça doit aussi être notre cas. Hein, on aurait pu parler du sacrifice vivant hein, dont Paul parle aux Romains. Pour bâtir ensemble une maison spirituelle où la présence de Dieu se manifeste, nous devons aller plus loin dans la générosité. Et encore une fois, je le dis d'abord pour moi, mais je crois que c'est vrai pour chacun. Nous devons aller plus loin dans la générosité et nous devons, j'ai pris un retard, nous devons devenir plus généreux de notre accueil, plus généreux de notre écoute les uns des autres. Plus généreux de notre temps. Ah, j'ai pas le temps. J'ai jamais le temps. Plus généreux de notre présence. Plus généreux de nos encouragements. Plus généreux dans l'hospitalité. Généreux de notre service. Quel qu'il soit. Selon le don que Dieu nous a donné. C'est tellement facile de mettre des limites. Seigneur, non, mais, voilà. Je ne peux pas te donner plus que ça. Et le Seigneur nous appelle à la générosité, au service de son Église et d'un monde qui souffre aussi et qui a besoin de nous voir vivre sous le règne de Dieu. Notre maison spirituelle ne se construira que avec notre générosité. Et la question que le Seigneur pourrait nous poser donc ce matin, et je vous laisse aller avec ça, c'est dans quel domaine, alors ça peut être singulier ou pluriel, parce que vous verrez ça avec le Seigneur lui-même, mais dans quel domaine le Seigneur m'appelle-t-il à devenir plus généreux? Parce que nous avons tous du chemin à faire dans ce domaine, dans cette affaire. Nous avons encore des marges de progression, comme on dit aujourd'hui. Alors, que nous puissions poser la question. Au Seigneur, montre-moi où est-ce que je me retiens, où est-ce que je me limite, où est-ce que je freine quand tu m'appelles, Seigneur, à faire telle ou telle chose, à entrer dans tel ou tel aspect de la vie de l'Église ou du service. Que le Seigneur nous aide à entendre sa voix, mais surtout à obéir. Quand il nous aura dit ce qu'il veut pour nous. Donc je conclue, la maison spirituelle de l'Église est à l'image du tabernacle, le lieu où Dieu vient à la rencontre de l'homme et lui parle. C'est aussi ce qu'il veut. Mais cette rencontre, je la rappelle encore, n'est possible que grâce au sang de l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde. C'est une rencontre à celui qui est à la fois Père et Seigneur de l'univers. Tellement grand que nous ne pouvons concevoir sa grandeur. Et il s'approche de nous ce matin encore pour nous rappeler que là où il ne règne pas, sa bénédiction ne peut pas s'épanouir comme il voudrait. Que ça s'épanouisse. Et il nous invite à réagir et à revenir à son modèle. Et il nous encourage à bâtir ensemble une maison spirituelle qui sera une communauté vivante qui révélera son règne et sa gloire à travers notre générosité. Je vous invite à prier. Seigneur, pardonne-nous toutes les contraintes que nous mettons sur notre engagement à ton égard et dans ton plan de construction d'une maison spirituelle qui montrera ta gloire dans ce monde qui en a tellement besoin. Seigneur, devant toi, devant ta générosité, nous nous sentons si petits, si mesquins, si radins. Seigneur, donne-nous de grandir dans notre générosité. Seigneur, montre-nous ce que tu veux pour nous, quelle place tu nous donnes dans ce chantier qui est le tien. Seigneur, tu veux que dans chaque ville, à travers le monde, à travers la France, il y ait des témoignages qui brillent pour toi, qu'il y ait un peuple, qu'il y ait des communautés qui vivent de ta vie et qui attirent d'autres vers toi et vers cette vie que tu veux donner. Seigneur, nous sommes tellement faibles devant toi et devant le défi que tu nous lances, mais nous en remettons à ton esprit qui veut nous guider, qui veut nous faire grandir, qui veut nous fortifier, qui veut nous inspirer, qui veut nous faire bouger dans le sens de ce que tu veux, de ce que tu as prévu. Seigneur, bénis ton Église ici à Figeac et que ta gloire repose sur ton peuple et que cette communauté soit une maison spirituelle où tu as plaisir à habiter et où d'autres pourront te rencontrer et te connaître. Nous te bénissons encore, Père, de nous avoir donné Jésus. Et nous te remercions parce que par ton esprit, tu es là et tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde, comme Jésus l'a promis. Merci. Aide-nous, Seigneur, à rester dans cette mission que tu nous as donnée et à être fidèles. Par ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen.